Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, les EHPAD privés. Après le scandale majeur, les petites arnaques. Différence entre prix affiché et tarifs réels. Demande de caution abusive, services fantômes. Il y a au moins une anomalie dans un établissement sur deux inspecté par la répression des fraudes. Le couple franco-allemand fait chambre à part. Les deux pays accumulent les sujets de désaccord alors que s'ouvre un sommet européen sur le prix du gaz. On en parle avec l'universitaire Hélène Millard de la Croix. Un nouveau rapatriement de femmes françaises parties faire le djihad et leurs enfants, 55, sont arrivés cette nuit. Rapatriement alors que se tiennent deux procès des années de terrorisme, l'attentat de Nice et les attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. Dans l'actualité encore, nous serons bientôt 8 milliards sur Terre. C'est la dernière projection en date. Comment parler du meurtre de Lola à des enfants ? Les négociations compliquées pour la formation du gouvernement italien et encore deux dépôts et raffineries Total en grève. À 13h30 au 01 45 24 7000, je vous attends dès maintenant sur le couple et l'argent. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes ? C'est un essai de la journaliste Tissue Lecoq. Quasiment du berceau à la tombe, elle synthétise toutes les études et à chaque stade de la vie, les femmes sont perdantes. Intervenez dès maintenant au téléphone ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. Et dans C'est une chanson, la bohème d'Aznavour fredonnait un beau jour dans une maternité. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
À nouveau, l'image des maisons de retraite privées est abîmée. Il y a eu le scandale Orpea en février. Et maintenant, cette étude de la répression des fraudes. Elle a enquêté pendant 3 ans dans 1000 établissements sur les offres commerciales faites aux résidents et aux familles de ces EHPAD privés. Et le bilan est sévère. Victor Dolland, plus d'un EHPAD sur deux est épinglé pour non-conformité ou anomalie sur les prix pratiqués ou les services proposés.
Oui, il y a notamment une discordance d'affichage entre les prix d'hébergement l'entrée des établissements et les tarifs réellement pratiqués. Certains EHPAD n'hésitent pas non plus à demander un dépôt de garantie exorbitant pour accueillir les résidents. Et comme les places s'arrachent dans ces EHPAD, la plupart du temps, les familles paient sans faire de signalement. Autre anomalie relevée, les services proposés sur les brochures étaient parfois très éloignés de la réalité, comme l'explique le porte-parole de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, Rémi Slove.
On a pu trouver des établissements dans lesquels étaient promis à l'entrée aux consommateurs, étaient allés la présence d'un salon de coiffure et d'esthétique à la disposition des résidents, la présence d'un psychomotricien, l'organisation de séances d'art-thérapie ou même la présence d'un jardin thérapeutique, alors que tout ça, ce n'était pas le cas. Le jardin thérapeutique, par exemple, ça pouvait être 3 pots de fleurs qui n'avaient rien de thérapeutique. Pouvait être allégué, par exemple, une jolie vue dans les chambres alors que les chambres donnaient sur un parking, ce qui évidemment ne correspondait pas à ce que les consommateurs pensaient avoir acheté.
Pour ces pratiques commerciales trompeuses, 17 établissements se sont vus infliger des amendes de plus de 10 000 euros. La DGCCRF va poursuivre son enquête. Elle encourage surtout les familles à signaler toutes les pratiques abusives qu'elles peuvent repérer.
Et pour cela, il y a cette adresse signal.conso.gouv.fr, signal.conso.gouv.fr. Le changement de doctrine de la France se confirme vis-à-vis des femmes et enfants français dans les camps de prisonniers en Syrie. 15 femmes, 40 enfants ont été rapatriés cette nuit. Les mères étaient allées faire le djihad ou rejoindre un compagnon. La plupart des petits sont nés sur place. Ils sont arrivés au milieu de la nuit à l'aéroport de Villacoublay, près de Paris. Dans ce dossier, la France a été condamnée le mois dernier pour inertie par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la 3e opération de rapatriement de l'année. Parmi celles qui sont désormais en France, il y a la sœur d'Amine El Bailly. La famille est originaire de Roubaix. La sœur, rentrée avec ses 2 enfants, ira directement en prison. Elle a été condamnée en son absence à 30 ans de réclusion par une cour d'assises. Les enfants ont 6 et 7 ans.
Ils sont arrivés ce matin à 3h30. Ils sont extrêmement fatigués. Ils sont traumatisés par leur détention qui a duré plus de 3 années dans un camp kurde en Syrie où il fait moins 10 degrés l'hiver, plus de 50 degrés l'été. Ils sont actuellement hospitalisés où ils passent une batterie d'examens médicaux, psychologiques avant d'être placés par l'aide sociale à l'enfance en famille d'accueil. Nous avons d'ores et déjà formulé une demande pour obtenir la garde. C'est effectivement un soulagement. Je m'en réjouis aujourd'hui. Je suis assez satisfait et je n'oublie pas, aujourd'hui, les plus de 170 enfants restants qui sont toujours détenus dans les camps kurdes en Syrie et pour qui il faut rapidement se battre pour les rapatrier. Parce que le rapatriement, est la seule solution.
Propos recueillis par Sophie Parmentier. Les mineurs arrivés ce matin à Ville-la-Coublaye sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il y a parmi eux 7 orphelins ou enfants isolés. Sur les 15 femmes, 12 sont placées en garde à vue. 3 qui étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt sont présentées à un juge d'instruction antiterroriste. Il y aura d'autres mouvements de rapatriement. Cela se fait progressivement, précise le porte-parole du gouvernement. Car Noé Pinède, il reste des Français dans ces camps en Syrie et en Irak.
Oui, il resterait encore une soixantaine de femmes et plus d'une centaine d'enfants emprisonnés au nord-est de la Syrie, principalement dans le camp de Roj. Leurs conditions de vie sont précaires, accès à la nourriture, à l'hygiène, à l'éducation très limité. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Selon nos informations, un garçon de 13 ans, kidnappé par son père, est toujours détenu, seul, dans un autre camp. L'adolescent ne fait pas partie du convoi de ce matin, malgré les appels à l'aide de sa mère en France. Depuis plus de 3 ans, ces femmes et ces enfants vivent donc sous des tentes, en attendant que les autorités françaises décident de leur sort. Dans le camp, la situation sécuritaire est extrêmement tendue et ces rapatriements renforcent le chaos. Certaines Françaises qui demandent à rentrer mais ne font pas partie du convoi d'aujourd'hui sont désemparées. Elles harcèlent les gardes kurdes, des gardes complètement débordés par la situation. En tout, ils détiennent plus de 60 000 ex-membres de Daesh et disposent de très peu de moyens. Ils demandent aux Occidentaux de rapatrier tous leurs ressortissants d'un seul coup. Mais pour l'instant, la France fait un autre choix, celui de les ramener au compte-gouttes.
Ces rapatriements interviennent alors que se tiennent au palais de justice de l'île de la Cité à Paris, 2 procès qui reviennent sur les terribles années de terrorisme 2015-2016, procès en appel des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, et procès en première instance de l'attentat de Nice, 14 juillet 2016. Vous le suivez pour France Inter, Charlotte Piret, vous êtes en direct avec nous. C'est l'avant-dernier jour de témoignage des parties civiles, les victimes et leurs familles. Ce matin a témoigné, Charlotte, une maman qui était sur la promenade des Anglais ce 14 juillet avec ses 3 garçons de 6, 11 et 13 ans.
Enzo, Luca, Nathan et leur maman, une famille devant un stand de bonbons et le camion qui leur fonce dessus. Enzo, 13 ans, rappelons-le, aperçoit une petite fille dans un fauteuil roulant, la soulève, la projette loin. Le fauteuil est retrouvé après, écrabouillé. Luca, lui, est heurté par le camion. J'ai tenté de me relever, mais mon corps n'était que douleur. J'étais couvert de sang perdu. Comme beaucoup de garçons, je rêvais d'être footballeur. Ce rêve a été réduit à néant, raconte-t-il à la barre. Après plus de 5 ans de rééducation, il veut aujourd'hui s'engager dans l'armée de terre pour servir la France. Il y a encore Nathan, alors 6 ans, qui se souvient du sang, des gens par terre, des yeux ouverts qui ne bougeaient pas. J'avais peur, je ne trouvais pas ma maman. Leur maman, elle, est allée aider des gens et les accompagner dans leur dernier voyage. Salut presque poétiquement Enzo. On s'est mis à l'abri, elle m'a demandé de m'occuper de mes frères. Je l'ai vu retourner sur la promenade, la boule au ventre. Je ne sais pas ce qu'elle a vu ce soir-là, mais sa vie a été brisée. Celle-ci confirme en larmes. Je pensais qu'après 6 ans, ça irait mieux, mais je mange des médicaments comme des bonbons. J'en ai pris 10 hier pour monter dans le TGV, 5 pour venir jusqu'à la salle aujourd'hui. Celle qui regarde ses enfants grandir comme une spectatrice, dit-elle, a pourtant tout essayé pour aller mieux, 6 psychiatres, l'hypnose et même la boxe, en vain.
Charlotte Piret en direct du palais de justice de l'île de la Cité à Paris avec Marc Garvenès. Le témoignage du maire de Nice, Christian Estrosi, est attendu cet après-midi. Et au procès en appel des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, le verdict est attendu ce soir. Seuls 2 des 11 accusés condamnés au premier procès avaient fait appel. Contre eux ont été requis la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté et 20 ans de réclusion, dont les 2/3 de sûreté. C'est aussi le rôle des politiques de poser des questions. Gérard Larcher, le président de droite du Sénat, ne condamne pas extrême droite et une partie de son camp accusée de récupération après le meurtre de Lola. La principale suspecte est une Algérienne en situation irrégulière. Le RN et les Zemmouristes en particulier accusent le gouvernement de laxisme dans ce domaine. RN et proches de Zemmour organisent chacun de son côté des rassemblements en début de soirée à Paris en hommage à Lola. La famille a fait savoir qu'elle ne voulait aucune récupération politique. Une marche blanche dans le quartier du 19e arrondissement un temps envisagé a été reporté. Comment aborder cette atroce affaire avec vos enfants qui en ont certainement entendu parler par ailleurs? Élément de réponse avec ce reportage de Yann Gallic à Paris.
Dans ce collège et lycée du 16e arrondissement, les élèves ont tous été choqués par le meurtre sordide de Lola, un fait divers qui, chez certains, génère de l'anxiété.
On n'est pas forcément toujours hyper serein quand on rentre tout seul, quoi.
Je pense que ça peut arriver à tout le monde quand même.
Du côté des parents, il y a ceux qui choisissent d'en parler avec leurs enfants et ceux qui préfèrent éluder la question, comme Gaëlle. Ses 2 filles sont âgées de 9 et 6 ans.
Je trouve qu'ils sont trop jeunes pour avoir ça et la vie est déjà assez compliquée. Et autant les préserver, pas qu'elles entendent des choses sordides. Donc nous, c'est clairement pour ça, volontairement, La radio, c'est dans la voiture ou le soir quand ils sont couchés. Il n'y a pas de télé et il n'y a pas accès à tout ça. C'est trop anxiogène pour eux.
Si les enfants ont entendu parler de ce meurtre, les parents ne doivent pas éviter le sujet. Au contraire, estime le psychiatre Serge Effez.
Il faut dire les choses comme elles sont. Et ce danger-là, il ne s'agit pas de le nier, mais il s'agit aussi de le relativiser. Pour ça, il faut que les parents, tout en étant concernés, ne se sentent pas trop pris dans l'angoisse de ce fait divers en se disant « Mais est-ce que si mon enfant sort demain pour aller à l'école, il va lui arriver la même chose ?» Donc il faut que les parents, justement, eux-mêmes calment leur angoisse, ce qui va faire qu'ils vont pouvoir rassurer leur enfant. Un parent angoissé, il ne rassure pas son enfant.
Selon Serge Effez, face aux enfants, il faut ne pas tomber dans la psychose.
Le reportage et récit Yann Gallic.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Au début de la guerre en Ukraine, les 27 pays de l'Union européenne avaient affiché une parfaite unité face à la Russie. Sont-ils en train de flancher à l'approche des 8 mois de conflit? Un sommet européen se tient aujourd'hui et demain à Bruxelles. Les 27 vont-ils se mettre d'accord sur un mécanisme pour limiter le prix du gaz? Avant de partir en Belgique, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est exprimé ce matin devant le Bundestag à Berlin. C'est non à un plafonnement des prix du gaz.
Plafonner le prix du gaz de façon politique comporte toujours le risque que les producteurs vendent ensuite leur gaz ailleurs et que nous, les Européens, nous retrouvions avec moins de gaz au lieu d'en avoir davantage. C'est pourquoi l'Union européenne doit se coordonner étroitement avec d'autres consommateurs de gaz, par exemple le Japon et la Corée du Sud, pour ne pas se concurrencer les uns les autres. Parallèlement, nous parlons avec les pays producteurs pour définir un prix approprié. Je suis convaincu que des pays tels que les USA, le Canada et la Norvège, qui sont solidaires à nos côtés avec l'Ukraine, ont eux aussi intérêt à ce que l'énergie ne devienne pas hors de prix.
Le chancelier allemand ce matin, voix off Lionel Thompson, propos sélectionné par Nathalie Versieux. L'Allemagne ne veut donc pas d'un plafonnement des prix du gaz. Elle a déboursé récemment 200 milliards pour soutenir son économie, au risque de ne pas respecter les règles anti-concurrence au sein de l'Union. En ouverture du sommet de Bruxelles, tout à l'heure, un tête-à-tête est prévu entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron, car entre France et Allemagne, la période est compliquée, à tel point qu'un conseil des ministres commun prévu la semaine prochaine est reporté en janvier, officiellement pour des questions d'agenda. Bonjour Hélène Millard de la Croix.
Bonjour.
Vous êtes professeure à Sorbonne Université, spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Crise dans le couple franco-allemand, vous employez ce terme ?
Alors, je crois que il y a une crise générale à laquelle nous assistons, et elle vient bien de l'extérieur. Alors, il y a une crise en Europe, il y a une crise, ouais. On peut dire, un désaccord. Vous savez, l'avantage d'une crise, c'est que ça permet de mettre les choses sur la table, bon. Et de trouver une sortie, ouais. Une porte de sortie. Alors, on entend beaucoup en France des reproches faits à l'Allemagne, et à raison. En effet, vous venez de l'évoquer, il n'y a pas seulement la question de plafonnement du prix du gaz, mais il y a aussi la question la fixation du prix de l'électricité, dans un système européen assez compliqué. Compliqué, ouais. Pour qu'on ne l'explique pas ici. Et l'idée de le découpler, les Allemands, ils sont hostiles pour le moment. Non, là où on a raison de faire, depuis Paris, des reproches à l'Allemagne, c'est d'un côté d'essayer de rester dans le giron de l'Europe et de faire en sorte que nous nous protégions ensemble avec un système où on s'est mis tous
commun,
d'accord,
ouais.
Commun.
Ouais.
Et en même temps, ils dégainent 200 milliards sans penser là à la solidarité. Alors ils vont vous dire, ça c'est parce que nous, on a été prévoyants et qu'on n'a pas été dépensiers.
Et qu'on avait des sous de côté.
Sauf que c'est pas nécessairement dans leur intérêt que les autres pays aillent mal.
On fait des reproches à l'Allemagne en France, fait-on des reproches à la France en Allemagne ?
En Allemagne, on parle beaucoup d'Allemagne. Je pense qu'on mesure mal en France combien ce pays a été ébranlé depuis le début de l'année. Alors non seulement ébranlé pour des raisons, la révélation qu'ils avaient fait une erreur stratégique, oui. Une erreur d'évaluation
sur la politique énergétique.
Oui. On a compris que d'un seul coup on était extrêmement dépendant, mais aussi dépendant de la défense des États-Unis, oui. De l'OTAN, et surtout que le conflit est quand même beaucoup plus proche de soi qu'il n'est ici. Et puis, il y a surtout un ébranlement du marché du gaz, de l'électricité. Et ce qu'on ne voit pas en France, qu'on ne voit pas depuis
de
la France,
ouais.
C'est que l'Allemagne, il y a un très fort mécontentement social. La politique énergétique locale, enfin régionale, en Allemagne, pour le pays, a été complètement chaotique. Il y a eu d'abord des faillites il y a une dérégulation, du marché de l'électricité et du gaz. Et donc, ouais. Il y a beaucoup de fournisseurs. Il y a eu plusieurs faillites. Il y a 4 grands fournisseurs qui tiennent à peu près la route, mais qui annoncent qu'ils vont avoir des difficultés. Le gouvernement avait fait un grand projet de soutien de ces grandes entreprises en faisant payer le consommateur. Ils ont retiré le projet. Là, maintenant, il y a une baisse de la TVA. Enfin, on se soucie de soi en Allemagne avec la crainte que les gens soient tellement mécontents, parce que les Allemands ne parlent que de ça, leur facture d'électricité, leur facture de gaz, que ça crée une colère sociale. Et d'ailleurs, l'extrême droite commence à, l'AFD commence à en profiter pour mettre un petit peu du feu sous la casserole.
Ce matin, Emmanuel Macron dit vouloir préserver l'unité européenne et l'alliance franco-allemande. Est-ce que ce coup de froid, c'est un classique au fond des débuts de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement Olaf Scholz n'est pas là depuis très longtemps. J'ai lu ce matin dans la presse un diplomate français disant « bon, comme d'habitude, on repart à zéro et puis ça va aller après ». C'est ça ?
Alors, on apprend beaucoup du passé, sauf que là, comme je le disais, on a un contexte de crise qui fait que les recettes que l'on a connues sont peut-être moins facilement applicables. Ce qui est vrai, c'est que cette coalition a été coupée en vol dès son début avec des grands projets.
Et coalition surtout, socialiste, vert et libéraux.
Et libéraux, et qui avait surtout comme grand projet de développer, de sortir du nucléaire, de développer le renouvelable grâce au prix bas du gaz qu'on allait conserver un petit moment. Or là, la coalition donc voit son schéma détruit, et en plus il y a des tensions au sein même de la coalition, notamment sur la question du nucléaire. Les Verts, donc le ministre de l'économie Robert Habeck a dit on va bien conserver deux centrales en activité, en réserve pour le cas où on manquerait d'électricité, alors que
c'est central dans l'identité des Verts allemands, le nom nucléaire.
Absolument, ils veulent absolument maintenir la sortie du nucléaire en avril 23, alors que les libéraux disent, ministre des Finances, non, il faut aller jusqu'à fin 24, ce n'est pas raisonnable, ouvrez les yeux. Et donc ça tiraille, comme les uns ont des revers électoraux régionaux, les classiques problèmes allemands. En Allemagne, on parle de soi.
Bon, on comprend très bien cela avec vos propos. Merci Hélène Millard de la Croix. Une Allemagne peut-être plus en crise qu'on ne le pense vu de France, et qui du coup se replie un tout petit peu sur elle-même. Sauf surprise, ce sommet européen, c'est le dernier de Mario Draghi, le Premier ministre sortant en Italie. Après les législatives de septembre chez nos voisins, la leader d'extrême droite Giorgia Meloni devrait lui succéder dans les jours à venir, à condition que les tractations pour former une coalition aboutissent. Bonjour Bruce de Galzin. Bruce de Galzin en direct de Rome. Le président de la République, Sergio Mattarella, consulte aujourd'hui et demain. Pour Giorgia Meloni, Bruce, constituer une équipe s'avère compliqué.
Ah oui, parce qu'elle doit composer avec des alliés, incontrôlables. Hein, lorsque l'on n'entend plus Matteo Salvini, bien c'est Silvio Berlusconi qui devient inaudible. Dans un enregistrement qui a fuité, il dit avoir renoué avec Vladimir Poutine. Il se vante même d'être le premier de ses 5 vrais amis. Il rend responsable de la guerre Volodymyr Zelensky, un Berlusconi sans frein ni filtre, qui inquiète Giorgia Meloni. Elle ne formera un gouvernement qu'avec des ministres atlantistes et dans la ligne européenne, dit-elle. Mais Berlusconi a beau dire qu'il est et restera atlantiste, justement, le mal est fait. Et l'on se demande déjà combien de temps va donc tenir ce gouvernement. Et puis, il faut déjà qu'il soit formé.
Et Bruce, il faut dire un mot des deux personnalités consultées ce matin. C'est au fond les deux premiers qui ont accédé au pouvoir depuis les législatives, président du Sénat, président de l'Assemblée. L'Italie a bel et bien viré franchement à droite.
Ah bah, pour vous donner une idée, le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat, Ignazio Ladussa, fondateur du parti Fratelli d'Italia avec Giorgia Meloni, a montré il y a 3 ans à une équipe de télévision les bustes et les statues de Mussolini qu'il entrepose chez lui. Mais la semaine dernière aussi, il s'est prononcé pour que l'on garde les portraits de Mussolini affichés dans certains ministères. Le troisième personnage de l'État, le président de la Chambre des députés, un proche de Matteo Salvini, très conservateur, était très pro-russe aussi avant la guerre. Enfin, la semaine dernière aussi, il a tout simplement contesté les sanctions contre la Russie que l'Italie a toujours voté jusque-là.
Bruce de Galzin en direct de Rome pour France Inter. Dans 3 semaines, nous serons 8 milliards. Le cap des 8 milliards d'humains sur Terre sera franchi le 15 novembre. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'Institut d'études démographiques. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
La croissance de la population va continuer d'augmenter jusqu'en 2050.
Dans 15 ans, nous devrions être 9 milliards sur Terre, 10 milliards en 2100. Les projections des démographes sont claires. La population va continuer d'augmenter pendant encore quelques décennies, mais le rythme de la croissance démographique va ralentir d'année en année. Elle n'est plus que de 1% par an, c'était 2 fois plus dans les années 60. La raison, la baisse de la fécondité, explique le chercheur Gilles Pison, l'auteur de cette étude.
2/3 de l'humanité vit dans un pays ou une région du monde où la fécondité est inférieure à 2,1 enfants par femme. C'est le seuil de remplacement qui permet le strict maintien de la population à terme. Donc, la majorité de l'humanité est déjà dans un pays où la fécondité est inférieure au seuil de remplacement des générations.
Les femmes mettent au monde 2,3 enfants chacune. C'était plus du double il y a 50 ans. Parmi les régions où la fécondité est encore élevée, il y a quelques pays du Moyen-Orient et de la région qui va du Kazakhstan au Pakistan, mais aussi une grande partie des pays d'Afrique, précise Gilles Pison.
Et c'est dans ces trois régions que l'accroissement de la population sera le plus important d'ici la fin du siècle, même si la limitation volontaire des naissances devrait s'y généraliser à terme, comme partout ailleurs.
La population africaine pourrait tripler d'ici la fin du siècle, avec près de 4 milliards d'habitants sur le continent en 2100. En clair, un humain sur trois vivra en Afrique.
Et ces projections, on les retrouve sur franceinter.fr, grâce à vous Victor, merci beaucoup. Il manque encore du carburant dans une station-service sur 5, en moyenne, en France. Ça s'améliore jour après jour. Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté restent les trois régions les plus mal loties. Plus du tiers des stations manquent encore d'au moins un carburant en Bourgogne, par exemple. Et quand une station à sec est ravitaillée, elle voit arriver beaucoup de monde. Reportage à Poigny, près d'Auxerre, Cyril Ardo.
Le camion-citerne est arrivé dans la nuit, aux alentours de minuit. La station était à sec depuis près d'une semaine, alors dès l'ouverture, les automobilistes étaient nombreux.
La voiture, elle m'a dit que niveau carburant bas, là, il est temps de faire le plein, ouais.
Vu la fréquentation, il y aura du carburant pour environ un jour et demi, alors il faut faire vite et l'info circule rapidement. Océane et Moriel.
Ma petite sœur qui l'a vu sur Facebook, elle m'a dit « va à Poigny, ils en ont remis hier soir ». Du coup, j'ai regardé avec une application sur mon téléphone.
Quand c'est comme ça, on appelle les collègues, il y a du gasoil ou enfin de l'essence, station Total là, station Total à Cora ou pas.
Océane remplit son réservoir au maximum. Elle va avoir de la route à faire pour partir en week-end.
Mon mari fait des compétitions de scooter et ce week-end, il y en a une et c'est à pas louper quoi.
Et sans essence, vous n'y seriez pas allé ?
Non.
Mais la situation n'a que trop durer pour beaucoup d'automobilistes. Amélina parcourt jusqu'à 200 km chaque jour pour son travail.
Je sais que ce ne sera pas une amélioration tout de suite. Donc oui, on espère une amélioration d'ici la semaine prochaine. Ça pénalise quand même beaucoup de gens. Je sais qu'il faut faire grève des fois. Enfin, ça nous a permis plein de choses, mais ça empêche quand même beaucoup de personnes de travailler et ça, c'est un peu injuste.
Et la question que tout le monde se pose déjà ici, quand aura lieu le prochain ravitaillement ?
Et il n'y a plus que deux sites Total Energy en grève, Gonfreville en Seine-Maritime et Fézin dans le Rhône. Au sein du groupe, un accord a été trouvé il y a quelques jours avec deux syndicats majoritaires sur les salaires. La CGT, de son côté, dit avoir proposé un protocole de fin de conflit à la direction. Maxime Debs, où en sont les négociations ?
Eh bien, il n'y en a plus, Bruno. C'est terminé, tout simplement. Tout est sur la table et ça ne bougera plus côté direction. Il y a un accord, vous l'avez dit, signé par deux organisations, la CFE-CGC et la CFDT, qui pèsent à elles deux plus de 50% de l'équilibre syndical chez Total. La CGT a certes présenté hier un protocole de sortie, comme vous dites, mais elle ne se parle qu'à elle-même, nous dit une source bien au fait des discussions. Peu de chance, pour ne pas dire aucune, qu'elle obtienne, comme elle voudrait, des primes localement, en plus de l'accord trouvé la semaine dernière, et qui va bien s'appliquer, c'est important de le dire. Les salariés des raffineries, des dépôts en bénéficieront, et ce sera 5% d'augmentation générale, 2% de plus au cas par cas, mais ça n'ira pas plus loin, encore une fois, et les grévistes l'ont, semble-t-il, compris en suspendant, entre guillemets, ces dernières heures le mouvement, que ce soit à la MED dans les Bouches-du-Rhône et à la raffinerie de Flandre à Dunkerque. Les regards se portent désormais donc vers les deux derniers sites en grève, Fézin et Gonfreville, où, selon nos informations, une AG serait prévue sur les coups de 14 heures.
À l'Assemblée nationale, l'automne des 49-3 a commencé. La Première ministre a déclenché hier la procédure pour la première partie du budget. Dans la foulée, la NUP, à gauche, a déposé une motion de censure. Le RN doit déposer la sienne dans la journée. Que font les LR à droite ? Pourtant, dans l'opposition, ils ne déposent pas de motion et ne voteront pas celle des autres. Anne Souhaitement, ils ne veulent pas jouer le rôle de pivot de l'opposition. Pourquoi cela ?
Officiellement, parce que les LR ne veulent pas ajouter du chaos au chaos. Les législatives, c'était il y a seulement 4 mois, insiste le président du groupe, Olivier Marleix, qui joue donc la noble carte de l'opposition responsable. Olivier Marleix, chouchouté par l'exécutif, traité, comme on dit dans le jargon. Exemple sur le budget, plusieurs amendements venus de la droite ont été conservés, dont la baisse de la taxation des petites et moyennes entreprises.
On a apprécié, admet une députée pourtant favorable à une opposition franche au gouvernement. Officieusement, si les LR refusent d'endosser le costume de tombeur de ce gouvernement, c'est aussi pour un motif plus terre-à-terre, la crainte d'une dissolution. Si on part sur de nouvelles élections, on reviendra non pas à 62 députés, mais à une trentaine, peut-être même moins, craint un élu des Hauts-de-France. Et à y regarder de plus près, Bruno, les LR sont peut-être déjà en campagne, peu présents dans l'hémicycle ces dernières semaines, omniprésents en circonscription. On se prépare au cas où, sourit l'un d'entre eux.
Après l'examen du budget de l'État, les députés enchaînent avec le budget de la Sécurité sociale. Lui aussi devrait se solder par l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par le gouvernement. Le mondial de l'auto se déroule jusqu'à dimanche, porte de Versailles à Paris. Il y est beaucoup question de l'électrique. Pour tous les fournisseurs, c'est un basculement pour le géant français du pneu Michelin, par exemple, Fabien Cazot.
Selon les modèles, une batterie électrique peut peser entre 200 et 700 kilos, un surpoids par rapport aux véhicules thermiques que les pneus doivent pouvoir supporter. Un enjeu stratégique pour Michelin qui développe des gammes de pneus adaptées, sans changer leur taille, mais en modifiant leur composition, ce qui permet aussi d'améliorer, selon le vice-président de Michelin, Bruno De Ferrodi, l'autonomie globale des voitures électriques.
30 à 50 km quand vous avez une autonomie de, allez, on va dire 300 à 500 km sur un véhicule, ça se voit. Parce que vous avez à attendre souvent quand vous faites un long voyage, que vous êtes sur une bande d'autoroute, que vous devez attendre 20 minutes pour recharger votre véhicule. À chaque fois que vous le rechargez, vous vous en souvenez. Ce temps de rechargement, parce que sur une année entière, ça peut vous faire sauver quelques heures. Le consommateur saura, j'espère, se rendre compte de la différence entre les différents produits.
Autre piste d'innovation, des additifs pour améliorer la performance acoustique.
Quand vous êtes avec un véhicule électrique, si vous êtes sur une route qui vous permet d'avoir un vrai silence et que vous entendez votre pneumatique, c'est désagréable. Quand vous réduisez l'émission sonore du pneumatique grâce à cette mousse à l'intérieur du pneu, vous avez l'impression d'être véritablement dans un véhicule électrique.
Des innovations dont les fabricants de pneus comptent également profiter pour augmenter leurs prix, d'autant qu'eux aussi sont rattrapés par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières.
Le département de l'Ardèche est placé en vigilance orange, pluie, inondation par Météo France. On retrouve Élodie Calac pour la météo dans quelques instants. Avant cela, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris en juillet 2024. Vous le savez, elle se déroulera sur la Seine, le long de la Seine. À quoi ressemblera l'ouverture des Jeux paralympiques? Un mois plus tard, eh bien, vous nous donnez les premiers détails, Guillaume Batin.
C'est la place de la Concorde qui a été choisie pour lancer les Jeux paralympiques de Paris, en plein cœur de la capitale, à l'endroit des compétitions des sports urbains qui auront lieu 15 jours plus tôt. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation.
L'objectif, c'est de proposer un moment magique de célébration, mettre des athlètes dans un décor majestueux, sur l'une des plus belles places, mais aussi proposer à ces athlètes du monde entier une célébration à couper le souffle. Après ce qui s'est passé à Tokyo dans un stade vide, on avait envie effectivement de valoriser ces athlètes de la plus belle des manières.
35 000 places payantes seront disposées dans des tribunes autour des quatre scènes réparties sur les 400 mètres de large de la place de la Concorde. Et tout sera fait pour mettre en avant les athlètes qui défileront depuis les Champs-Élysées devant 30 000 personnes.
Ces athlètes d'exception, c'est des exemples d'un point de vue sportif. Oui, il faut être très ambitieux comme on l'a été sur les Jeux Olympiques. On veut que ces Jeux Olympiques détonnent et qu'ils entraînent les Jeux Paralympiques vers un nouveau modèle pour Paris 2024.
Il reste un an et demi pour élaborer le spectacle, trouver comment et par qui la flamme paralympique sera allumée. La cérémonie de clôture se déroulera au Stade de France, comme pour les Jeux Olympiques.
Et la cérémonie d'ouverture, ce sera le 28 août. La météo dans un instant.
France Inter aime
Le Monde de Demain, la nouvelle série Arte sur les origines du hip-hop français dans les années 80 avec NTM, Lady V et Dynasty.
Les DJ, ils font tout avec rien et réinventent tout. C'est une énergie, c'est un flash dans la gueule.
Tu vois comment il faut se battre pour avoir une toute petite place.
C'est l'heure de la nouvelle ère du hip-hop et ça va péter.
Le Monde de Demain, réalisé par Catel Quiléveré et Elie Cisterne. Grand Prix Sérimania 2022. Ce soir à 20h55 sur Arte et déjà sur arte.tv. Un partenariat France Inter.
Business Affaires.
Étienne Royol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Sofinco Auto. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité?
Eh bien, Sofinco Auto est un partenaire de référence pour les groupes de distribution et les constructeurs automobiles. Nous proposons des solutions de financement pour faciliter l'allocation et l'achat de véhicules neufs ou d'occasion pour tous.
Et du coup, votre objectif?
Eh bien, c'est qu'en 2025, la moitié de nos financements concernent des véhicules électriques.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur sofinco.fr, rubrique Act for Green.
Business Affaires.
Bonjour, moi c'est Tom. Et lui, c'est Moby. Tous les deux, on est inséparables. Il me guide et grâce à lui, je peux aller où je veux.
Transmettre un leg ou une assurance vie aux chiens guides d'aveugles, c'est financer partout en France l'éducation de nos chiens pour offrir à des personnes déficientes visuelles le compagnon indispensable à leur autonomie. Informez-vous sur chienguideleg.fr.
Voyons le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Attention aux pluies et aux orages.
Oui, du Languedoc aux Cévennes, on a toujours ce vent de sud qui apporte beaucoup de nuages et des pluies parfois orageuses sur le relief. Ces pluies vont s'intensifier en fin de journée ce soir et elles persisteront jusqu'en journée de demain. Les quantités d'eau seront très importantes sur l'Ardèche. Elle est d'ailleurs placée en vigilance orange. Sur les Pyrénées, des pluies copieuses cet après-midi avec un fort vent de sud. Des orages sont également attendus du nord de la Nouvelle-Aquitaine, vers la Bourgogne, puis vers le Grand Est. Ils peuvent être forts, bien pluvieux, avec un peu de grêle et du vent. Et puis entre le Nord-Ouest, le bassin parisien, les Hauts-de-France, c'est plus calme, avec quelques averses, parfois un coup de tonnerre à partir de la fin de journée et pour cette nuit. On a quand même des éclaircies bien agréables en attendant, surtout sur le Nord-Ouest. Une ambiance toujours très douce malgré une petite baisse, alors 18 à 22 degrés au Nord, 22 à 25 en allant vers le Sud et encore 24 à 27 sur le Sud-Ouest et le Roussillon.
Élodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter. Le 13-14, Bruno Duvic.
Et jusqu'à 13h45, nous allons passer un quart d'heure avec Gwendoline. Gwendoline, c'est le personnage imaginé par l'essayiste Titiou Lecoq dans son livre « Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes ?» Le reste n'est pas une fiction. De l'enfance à la retraite, Titiou Lecoq dresse une synthèse des différentes études qui existent en France et ailleurs et qui montrent pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. En France, selon l'introduction, entre 1998 et 2015, l'écart de patrimoine entre les femmes et les hommes est passé de 9 à 16%. Derrière cela, il y a des mécanismes sociologiques, des attentes différentes vis-à-vis des hommes et des femmes qui, à la fin, creusent des écarts. Argent de poche, gestion du budget dans le couple, salaire, pension. J'attends vos témoignages au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter. Et bonjour Titiou Lecoq.
Bonjour.
Alors l'histoire de Gwendoline, elle commence par ce constat alors qu'elle est à peine adolescente, ses parents lui donnent moins d'argent de poche qu'à son frère.
Oui, et pourtant, les parents de Gwendoline aiment Gwendoline.
Autant que son frère.
On ne peut pas accuser les parents. Mais, alors ça, c'est des statistiques qui sont parues il n'y a pas très longtemps. Elles ont maximum 2 ans sur les écarts donc d'argent de poche. Et dans les deux phénomènes pour l'expliquer, oui. Il y aurait d'abord que...
Les écarts, 4 euros par mois de différence au début de l'adolescence, 10 à l'âge du lycée.
Oui, parce que ça va, c'est comme les salaires. Et en fait, les garçons demanderaient plus souvent des augmentations. Oui. Et je me dis, c'est fou, parce que c'est la même chose dans le monde du travail par la suite. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas le même rapport à l'argent avec les filles et les garçons. C'est-à-dire que les filles, on va leur faire des cadeaux. On va avoir le plaisir de leur offrir ce qu'elles veulent. Et les parents ont plutôt tendance aux garçons à dire, toi, tu as un budget, tu te débrouilles avec ton budget. Donc, on peut se dire, grosso modo, ils dépensent autant pour les deux, mais pas de la même manière.
Alors, encore un mot de l'enfance, mais ça dure longtemps. La taxe rose, qu'est-ce que c'est que la taxe rose ?
Alors, la taxe rose, c'est un concept qui existe depuis longtemps pour expliquer les écarts de prix entre, par exemple, un rasoir qui est rose va être vendu plus cher que le même rasoir bleu.
Ouais.
Et en fait, on s'est rendu compte que tous les objets comme ça, les déclinaisons un peu féminines, sont toujours... Parfois, c'est rien, c'est quelques centimes de plus, mais c'est toujours dans ce sens-là.
Mmh. Et votre hypothèse, c'est que, au fond, le produit dit masculin, le réveil bleu, est considéré comme le produit normal. Le produit féminin, c'est un peu l'extra. Donc, il y a un peu plus de marketing, un peu plus d'emballage ou de choses comme ça.
Et puis, il y a l'idée qu'on risque d'en vendre moins.
Oui.
Parce qu'il est plus genré et perçu comme plus connoté. Donc, on va moins vendre de réveil rose. Donc, par rapport à des impératifs de production, il va coûter un peu plus cher à faire. Donc, on va le vendre un peu plus cher. Mais ce qui est fascinant, c'est que vraiment, donc, je regardais les chiffres sur cette histoire de réveil de produits bleus et roses. Je me disais, c'est exactement ce que Simone de Beauvoir raconte dans Le Deuxième Sexe. C'est-à-dire que le masculin est perçu comme l'universel et le neutre.
Alors, on va pas faire toute l'histoire de Gwendoline, mais enfin, elle a tendance à quitter la maison plus tôt qu'un garçon, au risque de se mettre en danger financièrement. En revanche, son chéri, qui vit chez ses parents, s'incruste chez elle, donc il gagne sur les deux tableaux. Une fois qu'ils se mettent en couple, compte séparé ou compte joint ?
Ah oui, alors bah ça c'est un des grands sujets que les jeunes couples ne se posent pas assez. Oui. Et c'est à ce moment-là, Gwendoline ne se pose aucune question. Elle est juste trop contente d'avoir un appart avec Richard.
Oui.
Et elle se dit pas, en fait, c'est une décision économique et il faut la penser dans ce sens-là. Et c'est pareil quand elle part de chez ses parents. En fait, il y a un écart dans tous les pays d'Europe. Il y a un écart. Les filles partent plus tôt que les garçons de chez les parents. En France, c'est 23 ans pour les filles, 24 ans et demi pour les garçons. Et je pense que les filles, évidemment, ne se disent pas, ça a une conséquence économique. Il y a déjà un petit truc là qui se creuse d'écart. Et l'idée du livre est vraiment de se dire, on sait quand on va sur le marché du travail, on est des agents économiques, mais en fait, dans notre vie privée aussi.
Ouais.
Et ça, on ne le voit pas. Et donc, le moment où elle emménage avec Richard, elle est dans son histoire d'amour, et elle ne voit pas la décision
alors,
économique.
C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, heureusement, on se marie par amour. Et du coup, parler d'argent, notamment au début de l'histoire d'un couple, ça a quelque chose d'un peu désagréable, comme si on remettait en cause le lien d'affection. Sauf que quand on se marie par amour, ben, il y a plus de risques qu'on divorce quelques années plus tard. Et c'est au moment du divorce que les différences de patrimoine accumulées pose problème.
Oui, alors pendant très longtemps, on a dit que la séparation appauvrissait les femmes, mais en regardant les chiffres, on se rend compte que en réalité, l'appauvrissement des femmes, il date d'avant la séparation, mais juste il est masqué par cette espèce d'idée d'unité économique du foyer.
C'est ça, un foyer, mais on regarde pas le détail.
Et on regarde pas le détail, et en vrai, c'est pendant toute la vie commune que l'écart va se creuser entre les deux, et cet écart devient flagrant au moment de la séparation, puisque c'est le moment où on fait les comptes et on voit que l'écart s'est creusé. Mais en réalité, il date d'avant. Et donc, évidemment, mais ça, toutes les avocates spécialistes du droit de la famille, moi, l'ont dit. Un divorce, ça se prépare au moment du mariage.
Et l'écart s'est creusé parce qu'il y a toute une série de mécanismes dont on n'est pas conscient. Alors là aussi, hein, ça repose sur des études sociologiques qualitatives, quantitatives qui ont été menées. Au fond, les dépenses, la tendance, c'est que... Madame, si on est dans un couple hétérosexuel, etc., madame s'occupe des dépenses du quotidien, monsieur des investissements, parce que généralement c'est lui qui a le salaire le plus élevé, donc on dit le salaire le plus élevé, c'est pour les dépenses les plus lourdes, sauf que du coup, madame vide son compte en banque alors que monsieur accumule.
Exactement. Alors,
c'est ce que vous appelez l'effet pot de yaourt.
C'est le théorème du pot de yaourt, alors qui est effectivement valable en fait dans tous les couples où il y a une disparité de revenus, où les deux ne gagnent pas la même chose. Couple de femmes, couple d'hommes, ça peut même être parfois rarement la femme qui gagne plus qu'un homme. Ouais. Mais donc quand il y a une disparité de revenus, on se dit que le gros salaire se propose de lui-même pour prendre en charge les grosses dépenses. Mmh. Les grosses dépenses, en réalité, ça va être l'appartement ou la voiture, tout ce qui fait du bien, ce qu'on appelle du patrimoine, ce qu'on possède à la fin. Et donc, la personne qui a le plus petit revenu se dit, moi, pour compenser, je vais plutôt prendre en charge un peu plus de courses, etc. Sauf qu'au moment de la séparation entre Gwendoline et Richard, ils finissent par divorcer. Et donc, Richard, ayant payé la voiture, part avec la voiture en se disant, c'est normal quand même. Mmh. Et Gwendoline part avec ses yaourts.
Donc, c'est contre-intuitif, mais l'un des conseils que vous donnez, le petit salaire du couple doit aussi investir dans les dépenses un peu lourdes.
Oui. Alors, on a
sinon,
le plus
à la
petit
fin,
salaire.
C'est Richard qui a la voiture et Gwendoline n'a rien du tout.
Et en fait, quand on le pense à l'inverse, on se rend compte que c'est très logique. C'est-à-dire que la personne qui gagne le moins est en insécurité économique et donc elle a besoin de se faire une sécurité. Une sécurité financière, c'est soit de l'épargne, soit du patrimoine. Mmh. Donc, il faut insister pour dire, évidemment, plus petit salaire ne peut pas tout payer, mais je veux faire au moins 20% ou 15% de ce crédit-là. Et le plus gros salaire, qui de toute façon aura 80% de la voiture, a intérêt à dire, et moi, je vais payer plus les courses. Et c'est une manière de faire une redistribution des richesses. En France, on adore parler de ça. Et de justice sociale. Et l'idée, c'est de se dire, OK, mais dans notre couple, comment est-ce qu'on redistribue les richesses?
Et parler d'argent dans votre couple, ça n'est pas sale, parler d'argent, y compris au tout début d'une histoire. Il y a des différences sociales, et là aussi, une question homme-femme, une discrimination homme-femme. Plus on est riche, plus c'est l'homme qui s'occupe du budget, plus on est pauvre, plus c'est la femme qui s'occupe du budget. Pourquoi ça?
Alors
qu'est-ce que ça révèle?
Ça, c'est fascinant parce que ça se retrouve à toutes les strates. C'est-à-dire que dans la société en général, on sait qu'on va retrouver les femmes dans des métiers du care, du soin, des métiers dans toute la branche sociale majoritairement des femmes.
Moins bien payées.
Moins bien payées. Et ça se retrouve après au sein des foyers. C'est-à-dire que les femmes gèrent le budget dans les milieux plutôt populaires. Et plus il y a d'argent, plus ce sont les hommes qui gèrent. Et pendant longtemps, on savait que dans les foyers populaires, c'était les femmes qui géraient. Et donc, les sociologues disaient, donc ça prouve qu'elles ont un pouvoir. Mais en vrai, elle ne gère pas l'argent, elle gère le manque.
Elle gère la pénurie.
Elle gère la pénurie, ouais. Et c'est un travail qui est épuisant, y compris psychologiquement. Et il y a une étude qui est très intéressante sur les offices HLM. On se rend compte que les agents qui doivent aller récupérer les loyers impayés disent eux-mêmes qu'ils ciblent majoritairement les femmes, ouais, dans les couples hétéros, parce qu'elles sont plus sérieuses et que voilà, elles vont faire un effort. Et je pense que derrière, c'est l'idée que quand il n'y a pas d'argent, on est dans justement du soin. On est dans une espèce de care, finalement, de comment faire pour essayer de préserver la famille, pour apporter à manger, à table, etc. Et donc là, on va attendre des femmes de le faire.
Alors, à propos du soin, du care, ça c'est la question des métiers. Quand Gwendoline se lance dans sa vie professionnelle, elle a tendance à choisir un métier qui est moins bien payé que le choix que fait Richard. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous dites, on se demande toujours pourquoi il n'y a pas plus de filles dans les métiers bien payés, les filières scientifiques, etc. On se demande jamais pourquoi il n'y a pas plus d'hommes dans les métiers du care.
Oui, mais j'attends les affiches parce qu'on fait beaucoup de promotions pour les filles, allez-y, ouais, engagez-vous dans des carrières d'ingénieurs, etc. On a peu de campagnes pour dire, bah, les hommes, allez-y, devenez aide à domicile, aide-soignant, etc. Ouais. Mais en fait, c'est parce que ces métiers sont tellement dévalorisés qu'on se dit, on ne va pas inciter des hommes à aller là-dedans. Mmh. Et donc, en fait, l'égalité, c'est une grande histoire du XXe siècle en France, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est que j'ai fait jusqu'à présent en montant les femmes au niveau des hommes.
Ouais.
Et jamais en se disant, en fait, les hommes doivent venir aussi au niveau des femmes.
Alors, sur les inégalités de salaire, 22%, un tiers temps partiel, un tiers choix des métiers, un tiers injustice pure. Pour aller vers plus d'égalité professionnelle, vous relevez notamment le cas de l'Allemagne, où on rend public plus volontiers les salaires. Dans les entreprises de plus de 200 personnes, si vous postulez, on doit vous fournir le salaire médian, qui est calculé pour un poste équivalent à partir de la rémunération de 6 collègues. Voilà une piste.
Oui, c'est une piste, mais alors après, je trouve que c'est un peu compliqué. Ils auraient pu faire plus simple. En Allemagne, je pense qu'ils ont un peu coupé les cheveux en quatre. Mais c'est quand on me demande qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, et ben en fait, il y a un truc tout simple, messieurs, à votre travail demain, donnez votre salaire à vos collègues femmes. Mais en fait, il y a une vraie question, notamment dans les entreprises privées, où les femmes ont du mal à savoir. En fait, on ne sait pas combien gagnent les autres, donc on peut pas évaluer si on est en dessous ou pas. Et cette démarche de transparence, elle a été faite il y a genre un mois par les développeurs informatiques qui, sur Twitter, ont décidé de poster leur salaire, en gros quel diplôme ils avaient, combien d'années d'expérience et combien ils étaient payés. Et l'idée était vraiment de donner une espèce de grille salariale pour que les femmes développeuses puissent aussi se dire, bon bah voilà, est-ce que je suis sous-payée ou pas d'ailleurs.
Ouais, balance ton salaire, ça marche très fort sur Twitter en ce moment. 5 ans après l'arrivée d'un enfant, les mères perdent environ 25% de leurs revenus salariaux, parce que temps partiel, c'est le plus petit salaire qui réduit son temps de travail pour économiser les frais de garde. Il y a aussi un autre phénomène. Les femmes, après la naissance d'un enfant, plus que les hommes, réduisent leurs opportunités professionnelles. Elles se disent, oula, faut pas que j'aille trop loin de chez moi, en gros.
Oui, alors ça, c'est on est toujours sur le temps partiel. Alors, c'est sûr qu'on a moins de promotions quand on est à temps partiel, parce qu'on est perçu comme démotivé.
Et que, bien sûr, après, ça joue sur le montant de la retraite.
Bien sûr, voilà. Évidemment, tout se tient. Ouais. Mais donc, il y a une étude de l'INSEE qui a montré que les femmes travaillent plus près de la maison que les hommes. Et donc, en fait, il y a un choix de se dire, une fois qu'elles ont eu des enfants, il faut pas que je m'éloigne trop parce que faut que je puisse aller gérer les transports, l'école, enfants malades, etc. Mmh. Et donc, forcément, ça restreint leurs opportunités professionnelles de se dire, bah non, je peux pas accepter tel poste parce que c'est trop loin, c'est trop de transport. Ce que les hommes vont avoir moins tendance à se dire.
Alors, vous rappelez quelques jalons. Les femmes ont droit à leur propre compte en banque sans l'autorisation du mari depuis 1965. Elles ne sont autorisées à entrer à la Bourse de Paris qu'en 1967. Le livret d'épargne est un objet féministe dans l'histoire. 1818, je crois, c'est une date clé.
Oui, tout à fait. Et quand on fait l'histoire économique des femmes, on oublie ce truc de livret d'épargne. Ouais. En fait, les femmes mariées donc n'avaient pas le droit à un compte bancaire. En revanche, et il y a eu tout un débat, et je fais la retranscription parce que vraiment les discours des députés sont absolument géniaux, pour se dire, est-ce qu'on autorise qu'elles aient un livret d'épargne où elles pourraient mettre de l'argent et retirer de l'argent sans l'autorisation de leur mari. Ouais. Mais comme elles n'ont pas le droit de posséder quelque chose à elles, il y a plein de députés qui disent « Ah oui, ça voudrait dire qu'elles volent l'argent de leur mari, puisque c'est forcément la communauté des biens.
» Vous parlez des pistes pour essayer de changer les choses. Il y a une comparaison France-États-Unis. Dans les magazines féminins, par exemple, on apprend, entre guillemets, aux femmes à dépenser leur argent. Mais il y a très peu d'informations sur comment gérer son argent ou son patrimoine, alors qu'il y a des sites financiers à destination des femmes aux États-Unis.
Oui, alors c'est en train d'arriver en France, et ça c'est super. Moi, quand j'avais fait le podcast sur le sujet il y a 2-3 ans, il n'y avait pas beaucoup de choses, et là il y en a de plus en plus. Et vraiment, j'invite les gens à inscrire. Il y a des comptes Instagram dédiés à ça, ouais, qui vous apprennent à gérer votre budget, et c'est hyper simple, c'est super bien expliqué. Et c'est vrai que jusqu'à présent, moi j'ai le souvenir des reportages genre pour les soldes, les astuces pour bien faire les soldes, les filles, il faut aller repérer la veille, les articles, etc. Mais en fait, c'est toujours comment dépenser l'argent. Ouais. Et jamais, bah, comment en gagner, quoi, s'enrichir. Et donc là, c'est en train d'évoluer un peu, mais ça sera arrivé après quand même, c'est le dernier sujet, quoi.
Bon, le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Merci, Titu Lecoq, d'être passé.
Merci.
Dans le studio de France Inter, 13h44.
France Inter. Le 13-14.
Et bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
Dans 10 minutes, le vif de l'histoire, la crise des missiles de Cuba.
Et puisqu'on parlait de retranscription d'enregistrement politique, on a ceux du comité des collaborateurs de Kennedy pendant la crise des missiles.
C'était il y a 60 ans, vous y revenez dans 10 minutes. Le feuilleton dans la commune du Var qui manquait d'eau potable cet été. Le débit a été restreint, vous verrez cela avec Thibaut Cavaillès. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
C'est un visage connu du petit écran. Le comédien Gilles Alma est votre invité aujourd'hui. Il tient notamment le rôle-titre de la série télé César Wagner. Et il est sur scène actuellement dans le spectacle Gilles et Ben.
Gilles, c'est lui. Et Ben, c'est son comparse Benoît Joubert. Le spectacle est en tournée, mais également tous les jeudis à l'Apollo Théâtre à Paris. Et c'est d'une chanson du milieu des années 60 que Gilles Alma a choisi de me parler. La Bohème de Charles Aznavour. Une chanson qui lui rappelle le jour où il est devenu papa.
C'est très improbable cette histoire, c'est-à-dire que j'ai eu mon premier fils en 2008, qui s'appelle Sacha, que j'embrasse plus que tout, et je tournais à l'autre bout de la France et j'ai loupé sa naissance d'une heure et demie. Je suis arrivé une heure et demie en retard. Donc je suis arrivé très essoufflé, je suis arrivé le cœur un peu lourd, parce que bon bah voilà, on loupe la naissance de son premier garçon. L'infirmière m'a remis cette petite chose dans les bras, je me suis retrouvé seul avec lui dans une chambre. Et on dit que les bébés ne voient rien à la naissance, ils ne voient rien. Et pourtant, il y a un regard. Il y a un regard. Et je me souviendrai toute ma vie de ce regard. Voilà. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je chante une comptine. Et la seule comptine qui est venue, c'est la Bohème de Charles Aznavour. Pourquoi, comment, aucune idée. Mais je lui ai fredonné la Bohème à mon petit Sacha. Voilà. C'est la première interaction qu'on a eue tous les deux avec ce regard.
Et vous écoutez ?
J'ai la nette impression, oui.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
Cette chanson, Frédéric, a été écrite pour une opérette.
Oui, Monsieur Carnaval. Les paroles sont de Jacques Plante, la musique, et de Charles Aznavour. Quant à Gilles Alma, il se demande toujours pourquoi c'est cet air-là qui lui est venu quand il a pris son bébé dans les bras.
Peut-être que je lui disais déjà « je t'aime » à travers cette musique, très certainement d'ailleurs. Et je lui ai rappelé récemment, j'ai dit « tiens, je t'ai chanté cette chanson ». Voilà, il me dit « ah bon, pourquoi ?»
Vous avez connu la Bohème ?
Alors, celle de Charles Aznavour, bien entendu, non. Je suis de 79. Mais... Moi, j'étais 8 ans poissonnier avant d'être comédien, donc j'étais sur les marchés en région parisienne. Donc, est-ce que c'est une galère ? Je sais pas, c'est l'apprentissage de la vie. Mais c'est une bohème aussi, quelque part, parce que quand je vais faire mon marché, je trouve ça formidable. Je retrouve les commerçants, l'ambiance et quelque part un peu ma jeunesse.
La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans.
Aznavour n'est pas un chanteur qui a accompagné d'autres moments importants de votre vie ?
Non. Non, non, je pense que je suis un peu jeune pour ça. Mon premier bisou, c'était pas Aznavour, quoi. Mon premier câlin non plus. Moi, je crois que d'ailleurs, il n'y avait pas de musique. Enfin, bon, bref, peu importe. Bon, la naissance de son premier enfant, je pense que ça reste la plus belle chose qui me soit arrivée. Même si je suis arrivé en retard.
Vous en êtes remis d'être arrivé en retard ?
Oui, je m'en suis remis, mais j'ai essayé tant que possible d'être un bon père, et j'essaye encore. Il a que 13 ans.
Et la maman de Sacha ne vous en a pas voulu d'être arrivé en retard ?
Bah non, non. Non, non. Bon, on a divorcé quand même, mais c'était pas ça. C'était pas la raison principale.
La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
La bohème, Charles Aznavour. C'était donc Frédéric, le choix de Gilles Alma.
Gilles Alma, que vous pouvez retrouver actuellement dans Gilles et Ben en tournée et à l'Apollo Théâtre à Paris.
À demain.
À demain.
Quatrième étape assaillante pour notre feuilleton tourné à la mi-septembre. Ce village du Var a particulièrement souffert de la sécheresse, quasiment plus d'eau potable cet été. La mairie a restreint d'autorité la consommation de certains foyers. Au-delà de 150 litres d'eau par personne et par jour, une pastille était posée sur le conduit d'arrivée d'eau, ce qui limitait le débit à 5 litres par minute. Pascal s'est fait pastiller et Thibaut Cafayès a fait un saut chez elle.
Vous voyez, on
a vacillé. Racontez-moi, faites-moi couler l'eau. Ben ça va quand même, là, le débit, madame.
Ah oui, ça va pas mal. Hein. Aujourd'hui, depuis quelques temps, ça va pas mal.
Et vous enlevez la pastille ?
Apparemment non, nous sommes toujours avec la pastille depuis pas mal de temps.
Ben, je comprends pas, on m'a dit que la pastille réduisait le débit, mais là, ça a l'air d'aller.
Ah ben, cet été, on pouvait pas, par exemple, quelqu'un pouvait pas prendre une douche et laver deux assiettes. Ça, c'était pas possible. On pouvait pas allumer deux robinets en même temps. Il n'y avait pas assez de débit.
Le jour où vous vous rendez compte de ça, on vous appelle, on vous prévient, vous recevez un courrier, qu'est-ce qui se passe ?
Non, moi je me suis dit, oh ben dis donc, on n'a plus d'eau au robinet, qu'est-ce qui se passe ? Depuis qu'ils parlent qu'on a des soucis d'eau sur Seyant, ben ça y est, regarde, il n'y a pas de truc. Mais quand même, attention, on a un retard de facture, on a un mois ou deux, on n'a pas payé notre facture, c'était 200 euros, quelque chose comme ça. Je vais appeler, parce que peut-être qu'ils se sont dit, elle n'a pas payé, on va un peu lui couper son eau à celle-là. Donc j'ai téléphoné, et le jeune homme me dit, mais non, pas du tout, on ne fait jamais ça, on vous aurait prévenu, vous faites partie des gens qui consommaient trop d'eau. Donc on vous a mis une pastille.
Bon, alors venez, on va à la piscine, parce qu'on va aller à la piscine.
Elle est petite, vous avez vu, elle est petite. Regardez-la. Alors nous, la Sainte-Brigitte, elle est juste là.
Alors Pascal, vous habitez juste au-dessous de ce forage Sainte-Brigitte. Du coup, vous vous sentiez protégé.
C'est ça.
Et c'est peut-être pour ça que vous avez un peu trop consommé.
Plus de 150 litres par jour et par personne. Nous sommes trois, on a consommé trop.
Qu'est-ce qui fait que vous avez trop consommé ? C'est la piscine devant laquelle nous nous trouvons là, peut-être ?
Non, parce que très vite, on a écouté les consignes.
Vous aviez droit à 150 litres d'eau par jour et par personne. Vous êtes trois, vous m'avez dit. 450 litres. Comment vous avez fait pour dépasser ?
Très simple. Vous dites, vous déclarez que vous êtes trois, mais en réalité, vous n'êtes pas tout le temps trois. Moi, j'ai un autre fils qui a un petit bébé et une femme. Régulièrement, aussitôt qu'ils ont 5 minutes, la première chose qu'ils font, c'est revenir sur Seyant. Venir à la piscine, venir passer le week-end ici. On adore recevoir, donc l'été, vous voyez, on a plus d'un hectare. C'est des tentes, les gamins, les gens, bon... Ils se lavent et on ne peut pas. Donc on déborde largement.
Et quand on vous a expliqué qu'on vous a mis une pastille, comment vous avez réagi ?
Ah ben j'ai dit c'est super. Moi j'ai eu plein de gens autour de moi qui m'ont dit oh, c'est salaud, ils m'ont mis une pastille, je ne peux plus me laver, on se lave, on n'en a pas. Ah ben j'ai dit il faut, comment on va faire ? On va continuer à surconsommer ? Les gens vont surconsommer, ils s'en foutent, ils lavent leur voiture, ils continuent à arroser. Il faut arrêter ça, il faut changer sa façon de vivre, il faut modifier sa façon de consommer. Surtout l'eau. Et maintenant, je suis très fière de moi, puisque je suis en dessous de la consommation normale. On ne fait pas d'excès, donc on ne tire jamais de l'eau partout. Donc, on a coupé certaines tomates pour ne pas avoir à les arroser. On a préféré avoir moins de tomates. On arrose quand même nos légumes avec la bassine. Mais non.
La bassine de quoi, pardon ?
De l'évier qu'on a installé depuis le problème de l'eau. On a mis une bassine dans notre évier. Toute l'eau qui est consommée dans la cuisine repart pour quelque chose. On ne la jette pas dans le trou de l'évier.
Donc, vous êtes responsable ?
Ah oui. Oui. Maintenant, beaucoup plus. On le savait qu'on allait être embêté avec l'eau. Depuis des années, on le sait. On espère toujours que ça ne va pas arriver.
J'entends un bruit d'eau, ça m'intéresse. Vous avez vidé la bassine, c'est ça ?
Hein ?
Vous avez vidé la bassine ?
Oui.
Il fallait pas.
Pourquoi ?
Il faut arroser les plantes avec. Pascal, votre copine, elle a vidé l'eau de la vaisselle.
Donc elle a rien compris, moi je l'ai vidée. Elle a rien compris, mais elle vit en vie. La vie.
Qu'est-ce qu'avant de violer ? Hein ?
Voilà le feuilleton Thibaut Cavaillès, réalisation Étienne Bertin.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Alors que la Russie fait régulièrement planer la menace nucléaire sur la guerre en Ukraine, ce mois d'octobre marque les 60 ans de la plus célèbre des crises de la guerre froide, les missiles de Cuba, 1962. Nous en sommes à nouveau là, au bord du conflit nucléaire.
Il n'y a ni invasion ni annexion. Il y a eu à l'époque alerte nucléaire extrême, plus qu'aujourd'hui. Et le théâtre premier n'était pas européen, mais américain. Alors, rappelons les faits. Septembre 62, le président Kennedy avait prévenu le numéro 1 soviétique. Pas d'armes offensives à Cuba dirigées contre les États-Unis. Ne venez pas avec votre camarade Castro nous mettre un pistolet sur la tempe. Or, un avion espion apporte à Washington la preuve de l'installation dans l'île, en catimini, de missiles d'une portée de 1700 km qui pourraient donc atteindre la côte Est, menace inacceptable pour les États-Unis. Dès le 16 octobre, le comité extérieur du président se réunit matin et soir pour discuter des ripostes possibles qui toutes présentent des risques d'escalade mais qui devront pourtant intervenir avant que des têtes nucléaires n'équipent les missiles. Or, nous disposons des enregistrements de ces séances parce que Kennedy avait équipé la Maison-Blanche d'un magnétophone, comme le président Auriol auparavant l'Élysée, comme le fera après lui, pour son malheur, le président Nixon. Dans la première semaine de la crise, trois options sont étudiées. 1. Un raid chirurgical contre l'objet précis du délit, la zone des missiles. Ils sont 16, 24, peut-être davantage, dissimulés, qui sait. 2. Des frappes généralisées sur l'île, au risque de chauffer le patriotisme cubain et d'être mal compris dans le monde. 3. Un blocus naval pour empêcher l'entrée d'équipements militaires à Cuba, au risque cette fois de devoir couler tout bateau ou sous-marin russe qui pointerait le nez dans le secteur des Caraïbes. Aucune de ces options ne prémunit contre la nécessité plus tard d'une invasion de l'île et la possibilité de représailles en Europe, limitée, massive, est à considérer. L'érection du mur de Berlin, c'est l'année 61, l'année d'avant. N'importe quel incident peut y surgir à chaque instant. Et voilà que Mao profite du moment pour lancer le 20 octobre une offensive contre l'Inde sur leur frontière commune himalayenne. On imagine déjà qu'il pourrait attaquer Taïwan.
Alors Kennedy, Khrouchtchev et maintenant Mao, la crise de Cuba rappelle le rôle déterminant des personnalités dans les moments de haute tension.
Alors deux livres paraissent en français qui s'appuient sur la transcription des enregistrements que déclenchait Kennedy quand il réunissait ses collaborateurs. L'un est signé d'un membre de la bibliothèque Kennedy, Sheldon Stern, et l'autre d'un chercheur français, Vincent Toulouse. À lire ces documents uniques, on mesure combien la réputation d'intelligence des proches de Kennedy était méritée. C'était des têtes d'œufs ou des ordinateurs, a-t-on dit. On mesure aussi combien ils étaient partagés. « Faut y aller une bonne fois, dit l'un, et accepter les pertes. »« Non, soutient l'autre, il faut garder ouverte une issue pacifique. » Après tout, la guerre n'est pas déclarée, les relations diplomatiques ne sont pas rompues, comme aujourd'hui d'ailleurs. Kennedy va retirer des avis contraires, ce dont il a besoin. Il reste d'un flegme étonnant, même si la rapidité du débit de sa voix peut le trahir. Il garde du temps pour aller à la messe, pour s'amuser avec ses enfants, voir sa femme, jouer aussi avec sa maîtresse, parce qu'il y a alors une charmante stagiaire à la Maison Blanche du nom de Mimi. Grâce lui soit rendue si elle a contribué pour sa paix, pour sa part à la paix. Alors Kennedy suit aussi de près les midterms. Eh oui, les décisions d'un président sont filles de l'opinion. Mais dans son cas, elles ont été préparées par une longue formation et elles se prennent face à la postérité parce qu'il n'a pas envie de demeurer dans les mémoires comme un maudit.
Et les interlocuteurs de la crise de Cuba avaient un sens certain de leur responsabilité.
Il semble que l'idée qu'il fallait adopter une stratégie rationnel et dominer le collectif autour de Kennedy et puis peut-être aussi le collectif, le Politburo autour de Khrouchtchev. Dans la dernière scène de son livre, Vincent Touze montre Jackie Kennedy écrivant à Khrouchtchev. Alors nous sommes après l'assassinat de Dallas, elle est seule à la Maison Blanche qu'elle va quitter. « Mon mari, confie-t-elle au numéro 1 soviétique, avait l'habitude de citer vos propres propos. Vous avez dit ceci, monsieur Khrouchtchev. Dans la prochaine guerre, les survivants envieront les morts. »
Vincent Touze, comment Kennedy évita la Troisième Guerre mondiale, c'est aux éditions Archipoche. Et Sheldon Stern, les enregistrements secrets de la crise de Cuba, quand le monde s'arrêta, c'est aux belles lettres. Merci Jean Lebrun. Camille Cronier, Mathieu Vidard, la balade le long de la Loire continue, il y a de l'eau mais pas seulement hein, dans le coin.
Ça va Bruno ?
Mais oui, ça va bien, il y a de l'eau dans la Loire mais pas seulement, c'est ça ?
Alors la Loire et la Vienne aujourd'hui, et dans les Verts surtout, hein, mais voilà, on en parle pas tout de suite, on est près de Chinon, alors évidemment on va en parler, donc au programme raisin, cochon, silure et agroécologie.
Voilà. Tout de suite.